Mais le Seigneur a mis quoi dans mon cœur pour partager ce matin? Et puis c'est une parole d'exhortation que j'aimerais vous amener pour vous encourager dans le Seigneur. Mais avant qu'on tombe à la parole, on va demander au Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous assiste par son esprit. Seigneur, on te rend grâce que comme Paul dit, ce n'est pas notre propre capacité, mais notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de l'Esprit de Dieu. Et Seigneur, on te demande ce matin que tu aies libre cours parmi nous, par ton Esprit. Que tu accomplisses ta volonté ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Et que tu nous transformes de gloire en gloire à l'image de ton Fils Jésus-Christ. On te rend grâce au nom de Jésus. Amen. Savez-vous que nous, les chrétiens, nous sommes les gens les plus favorisés. Parce que de toute autre religion, nous sommes les seuls qu'il est écrit qu'ils seront enseignés de Dieu. Il est écrit dans les prophètes, Jésus dit, qu'ils seront enseignés de Dieu. Et tous ceux qui viennent à moi, ils vont être enseignés de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Et lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Dans Hébreux 1, la Bible nous dit que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé à travers les prophètes. Mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Aujourd'hui, je sais que Dieu veut nous parler. Il veut parler à nos cœurs. Et je demande votre attention. C'est notre privilège de recevoir de la part de Dieu. Et pour quelques personnes, des fois, c'est difficile à comprendre que Dieu veut vraiment nous parler aujourd'hui. C'était beau dans le temps que Jésus était sur la terre, mais aujourd'hui, comment Dieu nous parle-t-il? J'aimerais vous tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 2. C'est le privilège que Dieu nous a donné. Premier Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais c'est comme il est écrit, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui est monté, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. » Aujourd'hui, Dieu veut nous parler par l'Esprit. Il veut nous enseigner. C'est un privilège que nous avons. On sait que Jésus a dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il va quoi? Nous enseigner toutes choses. Pas quelque chose, pas autant que les chrétiens du premier siècle. Mais Jésus dit, mais qu'il vienne, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous guider dans une partie de la vérité. Comme ça, vous ne serez jamais certain si vous avez la vérité ou pas. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans votre Bible? Si ça l'est, débarrassez-vous-en, achetez-en une nouvelle. Parce que ce n'est pas ce que ça dit. Il va nous guider dans toute la vérité. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit aujourd'hui en nous. Le même esprit, pas un autre esprit, mais le même esprit. Fait que ce matin, on va se laisser conduire et l'Esprit va nous annoncer des choses. Jean dit la même chose, il dit « L'onction que vous avez reçue vous enseigne. » Nous avons reçu une onction de lui pour nous enseigner. Trop de chrétiens sont comme une petite histoire que j'ai à vous raconter. En Australie, il y avait des Indiens dans le temps passé. La façon de cuire leur viande, c'est qu'ils l'enterraient dans le sable, puis ils passaient un feu par-dessus. Ils allumaient le feu, éventuellement, la viande cuisait comme ça. Le seul problème, c'est que dans la viande, il y avait tout un petit peu de sable. Et quand ils mangeaient la nourriture pendant leur vie, par le temps qu'ils étaient un petit peu plus âgés, le sable avait comme limé leurs dents. Et quand ils étaient vieillards, souvent, il n'y avait plus de dents pour pouvoir mâcher leur nourriture. Fait que la façon qu'ils mangeaient, c'est que les plus jeunes mangeaient la nourriture et la donnaient aux vieillards pour qu'ils puissent manger. Trop de chrétiens aujourd'hui font la même chose en rapport avec la parole de Dieu. Au lieu d'aller à la parole de Dieu et de prendre un repas dans le Seigneur, dans sa parole, et d'entendre ce qu'il nous dit et d'être enseigné par l'Esprit de Dieu, on attend tout le temps que quelqu'un nous enseigne ou quelqu'un nous dise quoi faire. Aujourd'hui, je veux vous encourager d'aller dans la présence du Seigneur. Laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner, vous montrer des choses, et vous garantir quelque chose. L'Esprit de Dieu jamais va vous diriger contrairement à sa parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole éternelle de Dieu. L'Esprit n'est pas confus. Il ne dit pas une chose dans une génération, mais après ça, il change son idée dans l'autre génération. Il parle la parole vivante et permanente de Dieu. J'ai une autre petite histoire. Souvent, les chrétiens sont comme ça. C'est comme un homme qui part en voyage, et puis il va aller en Amérique. Il part de l'Amérique, puis il va aller en Europe. Mais il a juste assez d'argent pour acheter son ticket. Rien d'autre. Il ne peut pas se payer la traite au restaurant, rien. Ça fait qu'il se prépare des choses pour emmener avec lui, des biscuits secs, puis des fromages. Mais le voyage est pas mal long. Et puis après un petit bout de temps, ces petits biscuits secs sont moches. Et son fromage est moisi. Et puis, il commence à trouver le voyage long, puis il se dit, « Man, c'est pas un si beau voyage que ça. » Puis un de ses compagnons de voyage, éventuellement, le voit, puis il dit, « J'ai remarqué, tu viens jamais au restaurant avec nous autres. Tu viens jamais manger avec nous autres. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu viens pas avec nous autres? » Il dit, « Mais j'avais juste assez d'argent pour le ticket. J'ai pas assez pour pouvoir manger. » T'as pas compris. T'es demeuré dans l'ignorance. Quand t'as acheté ton ticket, le restaurant était compris. » Et souvent, les gens reçoivent Jésus-Christ, mais ne prennent pas le temps de recevoir tout ce que Dieu a pour eux. Et ils vivent leur vie chrétienne dans la défaite, et se demandent comment ça se fait, je suis tout le temps dans la misère, comment ça se fait, j'arrive pas à réussir, j'arrive pas à triompher. Comment ça se fait? Parce que trop souvent, on est content avec les miettes qu'on a. Au lieu de persévérer dans la parole de Dieu, au lieu de persévérer et de percer dans la présence du Seigneur. La condition du cœur appartient à l'homme, mais la réponse de la langue appartient à l'Éternel. Mais la langue parle par l'abondance du cœur. Hein, la bouche parle par l'abondance du cœur, la bouche parle. Il est important pour nous, puisqu'on a le privilège d'être enseigné de Dieu, d'apprendre de lui, de recevoir et de croître en lui, d'avoir une bonne disposition devant lui. Et je vais m'expliquer. Tournez avec moi dans Marc. On va prendre un exemple de ce qui est arrivé avec Jésus. Une disposition qui n'est pas correcte. J'ai trois points à faire. Le premier est d'une heure, le deuxième 45 minutes, le troisième, 15 minutes, on va être sorti d'ici à une heure. Savez-vous ce que ça veut dire quand un prédicateur regarde sa montre? Ça ne veut rien dire. Parce que bien souvent, il ne porte pas attention. Dans Marc 3, verset 31, « Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appelé. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voilà que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Trouvez pas que c'est triste? Jésus est en train de faire des miracles, guérissait des gens, une main sèche a été complètement guérie. D'autres qui étaient possédés des démons étaient complètement libérés. Et sa mère et ses frères sont en dehors pendant que les autres sont autour de lui et qu'il est en train de les enseigner. J'ai dit, le privilège qu'on a, c'est d'être enseigné de Dieu. Ici, Dieu manifeste dans la chair, est en train d'enseigner les gens, et sa propre mère, ses frères et ses sœurs sont en dehors. Et ils surveillent. Ils s'en viennent. Oh. En plus, il n'aime même pas le voir. Il envoie quelqu'un pour aller le voir. La place qu'on ne veut pas être, la disposition qu'on ne peut pas avoir, c'est d'être en dehors. Souvent, on peut être dans l'Église, mais quand même être en dehors. On se tient à l'écart. On regarde. On se tient autour et on observe les autres. Mais on ne s'implique pas personnellement. On ne s'implique pas personnellement à la recherche de Dieu. Dans la prière, dans la supplication, dans l'amour fraternel, on ne s'implique pas, on est toujours à l'écart. Nous n'avons pas une relation naturelle avec Jésus-Christ. Et sa mère et ses frères n'avaient pas une relation naturelle avec lui. Jésus a révélé ici, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là ont une relation avec moi. Dieu n'a pas de petits-enfants, il y a seulement des enfants. Autrement dit, parce que ma mère ou mon père ou mon oncle ou ma tante ou mon voisin sont chrétiens, puis je vais à l'église, je suis correct. Non, non, non. Ce que Dieu désire, c'est une relation personnelle avec nous. Il veut nous enseigner. Et si nous connaissons Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. L'onction est en nous pour nous enseigner. Et nous montrer les choses à venir, nous annoncer ces choses-là qui sont à venir, pour emmener dans nos cœurs une révélation de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a accompli et de tous ses bienfaits. Vous réalisez que dans l'histoire qu'on lit à toutes les années, qu'on lit à toutes les années dans le temps des fêtes, on lit le passage de Marie, l'ange vient d'avoir. Marie a toujours repensé ces choses dans son cœur. Elle repensait ces choses-là, de tout ce qui avait été dit à propos de Christ. Mais ici, dans Marc 3, elle est en dehors. Elle a une révélation supernaturelle, mais au lieu d'être à la poursuite de son fils, elle se tient à l'écart. Elle est en dehors. On peut avoir des expériences formidables dans le Seigneur, mais ce n'est pas ça qui nous amène à aller vers lui. C'est une relation avec lui. Il y a bien des gens qui expérimentent beaucoup de choses. Les pharisiens ont expérimenté des choses et ils ont vu beaucoup de choses que Jésus a fait. Est-ce que leur cœur était touché? Non, ils étaient en dehors. Ils étaient en dehors. La Bible nous dit dans Jean 7, 5 que tes frères non plus ne croyaient pas. Les frères de Jésus qui ont grandi avec lui non plus ne le croyaient pas. Ils se battent montagne. Au monde. Mon temps n'est pas prêt encore. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais ses frères ne croyaient pas en lui. Pourtant, il me semble que ça aurait été dur de vivre avec un frère qui ne fait jamais rien, pas correct. Hein? Oh, my! Ça m'aurait fait pécher dans le maison. Mais... voyons, je suis pas capable de le provoquer, pas capable de rien faire. Mais il me semble que, wow! Ça m'aurait porté à réfléchir. Puis de voir ce qu'il faisait, hors de l'ordinaire, et que Marie, elle n'a pas transféré l'expérience qu'elle a eue dans son cœur avec ses enfants. Elle dit, écoutez, quand j'étais enceinte, c'est pas un petit bâtard qu'on a eu, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur moi. Elle n'a pas communiqué avec ses enfants pleinement ce qu'elle avait passé dans son cœur, parce qu'elle-même ne comprenait pas complètement ce qui s'était passé. Pour vous dire, que ses frères et sa famille n'étaient pas avec Jésus à ce point-là encore dans leur vie. On va aller voir au verset 20 du chapitre 3. C'est Jésus, il vient de faire toutes sortes de miracles, guérir des gens, et puis ça dit, puis il revint à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, Les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu le sens. En bon Canadien français, il a perdu la boule. Il a perdu le chapeau. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Ils étaient en dehors. C'est pour ça que plus tard, ils sont venus le voir. Les gens qui sont en dehors sont souvent portes de critiques. Ils vont dire comme, « Hey, ces gens-là sont capotés. Ils se pensent pour d'autres mondes. » Ou bien non, ils vont croire des faux raisonnements. Et c'est probablement ce qui est arrivé avec sa parenté, parce que dans le verset 22, ça dit, « Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Beelzebub est en lui, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. » Il y avait un faux rapport. Et les gens, même les gens de sa parenté, ont commencé à croire ça. Et lorsqu'on se tient en dehors, c'est facile de devenir une critique. Au lieu de s'impliquer, on critique. Le Seigneur ne veut pas qu'on critique, il veut qu'on s'implique. On s'implique en lui. Mais il y a une bonne nouvelle. La porte est grande ouverte. Le Seigneur a démontré qu'il désire une relation avec nous à un tel point qu'il a donné sa vie. Maintenant, on va tourner dans Marc 4. Voyez-vous, il y avait des gens autour de lui et il y avait des gens qui étaient en dehors. Dans le chapitre 4, verset 10, ça dit, « Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Wow! Si on demeure en dehors, on n'expérimente pas le salut de Dieu. On n'expérimente pas le pardon. Mais ceux qui sont perceptibles, ceux qui restent à l'écart avec le Seigneur, la foule est partie, mais eux, ils demeurent. Où? Avec le Seigneur. En particulier, seuls avec le Seigneur. C'est des gens qui sont réceptifs, à qui le mystère de Dieu a été donné. Ça leur a été accordé de comprendre les choses du royaume. Et je crois que la plupart de nous ici avons au moins expérimenté le pardon de Jésus-Christ. Parce que ça dit ici que ceux qui sont restés en particulier, c'était ceux qui étaient intéressés aux choses de Dieu, et à eux, il leur a été donné de comprendre le mystère et d'être pardonnés. Autrement dit, ils reçoivent une clarté, une compréhension des réalités spirituelles. Ce que j'ai lu au début, au 1 Corinthiens 2, à nous, Dieu nous a enseigné, à nous, Dieu nous a donné de comprendre les choses spirituelles par son esprit. Ça, c'est les gens qui aiment se tenir avec Jésus. C'est des gens qui aiment venir dans la présence du Seigneur, des gens qui voient parce qu'ils ont été nés de nouveau. On ne peut pas voir le royaume de Dieu, on ne peut pas y entrer sans être né de nouveau, sans être né de l'esprit. C'est des gens qui entendent la parole et qui la pratiquent. Comme Pasteur Ken a dit la semaine passée, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait. Quand Dieu parle, on entend et on met en pratique. Et par ce fait, on expérience le pardon et l'amour de Dieu. Mais j'en ai votre attention dans un troisième groupe de personnes. Et je crois que le désir de chaque pasteur, de chaque ministre, c'est d'emmener les gens à cet endroit. Encore dans le chapitre 4, au verset 33, ça dit « Car c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. » Le deuxième groupe avait une capacité d'entendre la parole de Dieu, de la mettre en pratique et d'être changé par eux, par cette parole-là. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé. Je sais, dans la Louis II, ça dit en particulier encore. Mais dans le grec, c'est un terme différent qui veut dire en privé. Autrement dit, on peut être en Église ici et recevoir la parole de Dieu, et grandir, et s'épanouir. Mais il y a un endroit, là où l'on croit dans la parole de Dieu, là où il y a la plus grande croissance spirituelle, et ça, c'est en privé. Là où ce que personne voit, à part que notre Père qui voit dans le secret. Oh! C'est beaucoup plus facile quand on est ensemble. Mais en privé, mais regardez ce que Jésus fait. Mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. C'est ce que je désire. Je ne veux pas seulement entendre et comprendre, mais je veux que le Seigneur m'explique les réalités spirituelles qui nous ont été données en Jésus-Christ. Mais pour ça, j'ai besoin d'aller dans ma chambre, fermer ma porte, prendre la parole de Dieu, parce que Dieu a déjà prononcé sa volonté. Dieu a déjà prononcé sa parole. Et l'Esprit qui parle aujourd'hui parle. Juste un instant. J'aimerais tourner dans 1 Thessaloniciens. Quand une personne vient devant vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, voici ce que Paul dit qui devrait être notre disposition. Au chapitre 2 du deuxième livre, au verset 13, « Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit, et c'est par la foi en la vérité. » Non, je me suis... juste un instant, là. C'est le premier, peut-être, c'est la première épître. Un instant. Oui, c'est la première épître, excusez-moi. Au verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu. Lorsqu'on ferme notre porte de chambre, n'allez pas juste demander plein d'affaires au Seigneur. Amenez la parole. Laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner en privé, dans votre chambre. Et je vous garantis que votre prière, que vos prières, que votre relation avec Dieu va changer. Lorsque la parole de Dieu saisit votre cœur et vous découvrez, waouh, la foi vient parce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de notre imagination. Ça vient de la parole de Dieu. L'Esprit va vous vivifier par sa parole. Fait qu'en privé, ce sont ceux qui ont soif, faim et soif du royaume. Ceux qui s'attardent à la parole de Dieu, comme dans Hébreux 5, ça dit, qui ont atteint une maturité dans le Seigneur. Ceux qui ont saisi ce que Paul parle dans Romains 12, 1 et 2, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, d'être pas conforme à ce monde, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. On vient dans la parole de Dieu, on vient dans la présence de Dieu, et Jésus commence à nous expliquer par l'Esprit les vérités qui nous ont été données, les choses qui nous ont été gracieusement accordés. C'est là qu'on reçoit des révélations de la part de l'Esprit. Qu'est-ce qui est le résultat de ça? Premier résultat, que les autres vont commencer à s'apercevoir qu'il y a quoi qui a changé. Dans Acte 4, après que les disciples aient prêché la parole, ils sont persécutés. Ils font un gros miracle, mais les pharisiens et les scribes et tous les autres, ils veulent arrêter la parole. Hein? Mais une chose que ça nous dit dans ce passage-là, ça dit qu'ils ont remarqué, puisqu'ils étaient des gens ignorants, sans diplôme, rien qui pouvait les approuver devant les hommes, mais ils ont remarqué une chose. La Bible nous dit qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient été avec Jésus. Lorsqu'on passe du temps avec Jésus, les gens autour de nous s'en aperçoivent. Les gens s'en aperçoivent lorsqu'on prend le temps d'aller dans la présence du Seigneur. Habacuc 2, 14 nous dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Je n'ai pas encore vu une mer où il y a une partie d'eau qui n'est pas couverte. Ça veut dire que la connaissance de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu va remplir toute la terre. Et dans 2 Corinthiens 4, 6, Paul dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir, quoi? La connaissance de sa gloire. Oh, oui, Seigneur. De la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Où c'est qu'elle est la gloire de Dieu? Et dans la face de Jésus-Christ. Où allons-nous être transformés? C'est dans la présence. Lorsque nous contemplons la face de Christ, lorsque nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire. Si notre vie ne porte pas la marque que nous sommes transformés, je crois qu'on peut sincèrement s'examiner et dire, Seigneur, je n'ai pas été probablement assez dans ta présence. Parce qu'on a une garantie, si on passe du temps dans la présence du Seigneur, c'est pas peut-être que vous allez être transformé. Il y a peut-être bien quelque chose qui va se passer. C'est assurément que vous allez être transformé. Assurez-vous que Dieu ne s'est pas transformé. Il y a bien des gens qui nous disent, « Oh, le Seigneur me dit de faire une telle chose. » Et quand les Écritures sont claires, que c'est impossible que Dieu leur ait dit de faire cette chose-là. Allô? Hein? Il y a beaucoup d'exemples qui viennent à la tête, mais vu que je pense que je serais mieux de m'attenir, mais si quelqu'un dit, on prend un exemple général, si quelqu'un dit, l'Église a besoin d'argent, puis l'Esprit de Dieu, j'étais dans la présence du Seigneur, l'Esprit de Dieu me dit, va cambrioler la banque pour que l'Église ait les fonds nécessaires. Alléluia! Je sais, j'ai passé le temps avec le Seigneur, j'ai reçu la révélation. Je vais aller voler la banque. Maintenant, ça, c'est transformer Dieu à notre image. Hein? Mais Dieu n'est pas transformé, mes amis. Nous sommes transformés. Peut-être auparavant, c'était ton habitude, quand tu manquais d'argent, tu arrivais avec la carabine. Passe le cash. Mais après que tu viennes au Seigneur, il y a un changement, une transformation qui se passe dans nos vies. On sent la carabine et puis on va travailler. Hey, ça, c'est une révélation. Ça, tu peux avoir ça dans la première partie. Tu n'as pas besoin d'être en privé vraiment pour ça, mais quand même. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que dans la présence du Seigneur, nous allons être transformés. Et si vous avez des problèmes, vous dites, mais maintenant, je ne peux pas changer. Allez dans la présence du Seigneur. Je vous garantis que vous ne serez pas capable d'être dans la présence de Jésus-Christ, de contempler la gloire de Dieu dans sa face et de demeurer la même personne. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu agit en nous pour nous transformer. On ne peut pas changer. Par nous-mêmes, Paul dit, « Man, je suis misérable plus que tous les hommes. Qui peut m'aider? » Je remercie Dieu à travers Jésus-Christ. Hein? C'est seulement lui qui peut nous aider. Nous sommes sauvés par grâce. Et Paul dit, je travaille plus que tout le monde. Pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Dieu veut nous remplir de sa grâce. Il a une abondance de grâce afin qu'on ne vive pas dans les galops, on dit en anglais, dans les galops. Dans les galops, c'est ça en français? Non? Qu'on ne vive pas dans les... voyons. Hein? scatter? Dans l'ignorance, ouais. On va dire l'ignorance. Le mot ne vient pas en français, désolé. Dieu nous a donné une promesse que si nous avons faim et soif de justice, que nous allons être rassasiés. Nous allons être rassasiés. Avez-vous faim? Avez-vous soif? Est-ce qu'il y a quoi ce matin que vous désirez? Je vous garantis, allez dans la présence du Seigneur et vous allez être rassasiés. Maintenant, on va terminer. Avec la façon, je crois, que la Bible nous enseigne. Si on veut mettre un titre sur ce message-là, ça serait « Une seule chose est nécessaire. » Il faut choisir la bonne part. Luc 10. Verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Oh, merveilleux! Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Il y a beaucoup de choses à faire en tant que chrétien, en tant que membre d'une église. Elle se souvint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider! » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Jésus dit, « Tous ceux qui viennent à moi, il va les accueillir. » Il y a une seule chose, il y a une seule priorité qui surpasse toute autre priorité dans notre vie. Avant même de servir dans n'importe quel domaine, cette priorité-là, c'est d'être assis aux pieds de Jésus et d'entendre sa parole. C'est en attendant la parole de Dieu que nous sommes changés. Quand on est né de nouveau, toutes vieilles choses sont passées. Et certaines choses, comme Pasteur a dit la semaine passée, certaines choses sont devenues nouvelles. Non. Toutes choses. On est dans la parole de Dieu, on est dans la présence de Dieu, il y a une seule chose, c'est nécessaire de venir devant lui et de s'asseoir. Savez-vous ce que ça veut dire, s'asseoir au pied de quelqu'un? Paul en parle. Il dit qu'il est assis au pied d'un Gamaliel, Il est assis au pied. Pourquoi? Parce qu'il entendait la parole. Il était enseigné. Il était un disciple de ce grand enseignant de son temps. S'asseoir au pied de Jésus, il démarre comme lui. Et nous avons une ouverture d'être enseigné. Nous avons un appétit pour recevoir de lui. Nous voulons entendre ce qu'il a pour nous. Nous avons besoin de choisir la bonne part. On a tous un choix à faire. Dieu, en aucun cas, il n'y a pas un cas ici, dans l'Église, aujourd'hui, où ce que vous êtes dans une situation qui est au-delà de ce que vous êtes capable de le mot m'échappe en français, d'accomplir. Il n'y a pas une chose que Dieu vous met à travers que vous ne pouvez pas passer à travers. Parce qu'il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Il simplement ne permettra pas. Donc, si on vient dans ta présence, nous allons être fortifiés pour faire sa volonté. C'est le choix que nous avons à faire. Choisir, comme Marie, la bonne part. On a besoin de choisir la bonne part. On a besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Je l'ai déjà mentionné dans 2 Corinthiens 3, 18, ça dit... Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Souvenez-vous, je vous ai dit, quand on passe du temps avec le Seigneur, les autres, on aperçoit, on va passer du temps avec Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes changés en la même image. Transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Jacques nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et oublie que c'est lui. Quand on vient dans la présence de Dieu, on regarde comme dans un miroir. On a la parole avec nous. Dieu nous montre les choses qui nous appartiennent, les choses qu'il nous a gracieusement données. On a besoin de pas seulement l'entendre, mais de la mettre en pratique. Dans les Écritures, l'instruction est une source de vie. Dans, vous n'avez pas besoin de tourner là, dans Proverbe 4, verset 13, ça dit, « Saisis l'instruction, ne la lâche pas. Retiens-la, car elle est ta vie. » Jésus dit, « La parole que je te parle, elle est quoi? Elle est esprit et vie. » Lorsque Jésus nous parle, ça va mener à la vie. Ça va nous vivifier. Car l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voulez être vivifié, vous voulez être vivant dans le Seigneur? Non! Où c'est qu'on va aller pour être vivant dans le Seigneur? Où c'est qu'on va aller pour savoir plus de Dieu? Au pied de Jésus. Alléluia. Savez-vous que en hébreu et en grec, dans cette génération-là, une personne ne connaissait pas quelque chose jusqu'à temps que cette chose-là ait été établie et manifestée dans leur vie. Autrement, tu ne connaissais pas vraiment la chose. Ça sonne pas mal, c'est ce que Pasteur Ken a dit la semaine passée. C'est pas ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on fait. Parce qu'il faut que ça œuvre dans nos vies. Si on comprend, si on a vraiment saisi, si on connaît la parole de Dieu, elle va se manifester dans nos vies. Et lorsque ça manifeste, c'est là qu'on réalise qu'on a vraiment compris. C'est là qu'on réalise qu'on a saisi l'instruction de Jésus-Christ. C'est là qu'on a la vie en nous. Une personne ne connaît pas quelque chose jusqu'au temps que la réalisation pratique ne se manifeste dans sa vie. Et on voit l'idée, cette idée-là, cette pensée-là, à travers les Écritures. À toutes les fois que ça fait mention de la parole de Dieu, pas loin par après, ça nous dit, mettez-la en pratique. C'est pas juste des suggestions. C'est mettez-la en pratique. Le Seigneur vous parle, c'est pour vous donner la vie. Le Seigneur vous instruit, c'est pour vous donner la vie. C'est pour ça qu'on vient dans la présence de Dieu. Dans 1 Jean 2, on peut voir que Jean, l'apôtre le plus proche du Seigneur, est-ce qu'on est d'accord avec ça, celui qui était sur sa poitrine? Dans 1 Jean 2, on peut voir que Jean a vraiment saisi, que l'Esprit l'utilise pour mentionner cette réalité-là de leur temps. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 3, ça dit, « À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. » Wow! Connaissance pratique. Réalisation pratique dans nos vies. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Wow! Ça veut dire, si je connais le Seigneur, ça va être manifesté dans ma conduite, ça va être manifesté dans mes paroles, ça va être manifesté dans mes pensées, ça va être manifesté dans tout ce que je fais. Seulement par la grâce de Dieu. Chapitre 3, dans le même livre. 1 Jean, chapitre 3, verset 6, ça dit, « Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise.
Celui qui pratique l'injustice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché ou ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on garde la parole de Dieu. Jésus dit dans Marc, dans Matthieu 7, 23, il dit, il y a des gens qui faisaient toutes sortes de choses en son nom. Guérissaient les malades, prophétisaient, chassaient les démons. Mais Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils avaient une connaissance, en partie, de la parole de Dieu, mais ils n'étaient jamais venus à la connaissance de la gloire de Dieu, là où ce que la parole de Dieu pénètre nos cœurs et nous change et nous transforme. Parce que Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il y avait une connaissance, mais ça ne se reflétait pas dans leur vie. La gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ va se voir dans nos vies. Il y a beaucoup de bienfaits de la parole de Dieu. Souvenez-vous ce que je vous ai dit quand je regarde dans ma montre, ça ne veut rien dire. Mais je veux juste en énumérer quelques-uns et on finit avec ça. La parole de Dieu, vous êtes découragé, la parole de Dieu va vous encourager. Vous êtes fatigué, la parole de Dieu va vous fortifier. Vous êtes fatigué, la parole de Dieu. La présence de Jésus va restaurer votre âme. Elle va vous rendre sage. Elle va vous réjouir le cœur. Elle va vous éclairer les yeux. Elle va vous consoler. Elle va vous donner l'intelligence. C'est elle qui vous régénère. C'est elle qui vous transforme par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est elle qui agit en vous. C'est elle qui est vivante et efficace. Avez-vous remarqué une chose? La parole agit. Quand on est dans la présence du Seigneur, quand on est assis à ses pieds, on est soumis à lui, on entend sa parole. Pas inutile. La parole va agir en vous. Elle va être efficace. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment entré dans la présence du Seigneur. Parce que sa parole commence à agir en nous. Jésus nous lance une invitation ouverte. Dans Jean 6, 37, c'est tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. L'invitation est encore ouverte. 2000 ans après, l'invitation d'aller à ses pieds, de venir entendre sa parole, d'être transformé, est encore aussi vivant que dans le passé. C'est votre choix, c'est mon choix. Je peux vous déclarer sur l'autorité de la parole de Dieu que nous tous qui sommes ici, nous sommes aussi proches de Dieu que nous voulons l'être. Est-ce que vous croyez ça? Jean nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oh, wow! Mais je ne me sens pas proche du Seigneur. Peut-être parce que tu ne t'es pas approché du Seigneur. Quand tu dis, va mettre en dehors personne qui vient. La porte est grande ouverte pour chacun de nous d'aller dans la présence du Seigneur, de s'asseoir à ses pieds et d'entendre. Et c'est en privé que le Seigneur nous explique les choses du royaume. C'est en privé que nous sommes transformés. Et c'est en privé que lorsque Moïse, après avoir été 40 jours avec le Seigneur, est descendu, il était tellement rempli de gloire qu'il a pu mettre un voile. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre un voile. Et les gens peuvent voir la gloire de Dieu, la face de Christ, à travers nous. Et les gens peuvent dire, ce groupe-là sont avec Jésus. Vous ne connaîtrez pas parce que vous êtes libres, mais parce que vous êtes avec Jésus. Au ciel, on ne dirait pas, ah, moi je faisais partie de la vie tombée, ou moi je faisais partie de l'église Pentecôte, ou moi je faisais partie de l'église Baptiste. On va s'en foutre.
au ciel.
On fait partie de Jésus. On est avec Jésus. Alléluia. Ce matin, je lance l'invitation de vous approcher de Dieu. Et il s'approchera. Alléluia. On se lève ensemble. On va terminer ça. Juste une parole de prière. On ne veut pas rester en dehors, Seigneur, mais on veut s'approcher de toi. Seigneur Dieu, on reconnaît ce que tu as fait à la croix pour nous. On reconnaît, Seigneur Dieu, qu'il a une abondance de grâce pour nous. Et que tous ceux qui s'approchent de toi, tous ceux qui viennent à toi, tous ceux qui viennent au Père, par toi, Seigneur Dieu, tu ne les écartes pas, mais tu les reçois. Et on te remercie, Seigneur Dieu, pour cette voie vivante. Ce n'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose de divin. Et lorsqu'on s'approche de toi, Seigneur Dieu, ton esprit nous vivifie, nous donne la vie, et nous sommes changés. Seigneur, on désire que ta gloire repose sur nous. Que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire reposent sur nous. On te remercie en ton nom. Nous avons cette assurance par la foi que ta parole, Seigneur Dieu, est la vérité. Ta parole, Seigneur Dieu, est la vérité. Et il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui peut changer ça. Et on la reçoit ce matin. Seigneur Dieu, on vient à tes pieds. On vient devant toi, Seigneur, en soumission à ta parole, en soumission, Seigneur Dieu, à ton enseignement, à la soumission, Seigneur Dieu, à ton instruction, par ton esprit. On a entendu, Seigneur Dieu, que tu désires nous instruire, tu désires nous enseigner, tu désires, Seigneur Dieu, nous guider, nous conduire, nous annoncer les grandes choses du royaume, afin que nous puissions les transmettre dans notre génération comme des flambeaux, Seigneur, à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur, vous bénisse. C'est un plaisir d'être avec vous. Et puis, peut-être se revoir une autre fois. Alléluia. C'est toi qui semble...